Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines bien sûr. Aujourd'hui, nous parlons du vaudou. Dans un monde de plus en plus technologique, comment cette croyance cohabite avec les nouveaux modes de vie? Quelle est l'influence du vaudou dans les villes africaines et de la Caraïbe? Quelles sont les dérives, les réponses des autorités gouvernementales? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir dans le studio de RFI un sociologue haïtien de passage à Paris. Bonjour Laennec Urbon.
Bonjour.
On est très content de vous avoir dans l'émission. Vous êtes spécialiste du vaudou, chercheur au CNRS en France et président du conseil scientifique de l'Université d'État d'Haïti. Vous vivez principalement à Port-au-Prince et vous avez publié notamment Les mystères du vaudou chez Gallimard. Je crois que l'ouvrage est épuisé. Hein.
Exactement.
Le vaudou, lui, ne s'épuise pas.
Non, il n'est pas épuisé.
Malgré le monde qui change.
Il est toujours vivant.
Nous nous interrogerons aussi sur les liens entre le vaudou et les crimes rituels en Afrique centrale. Réponse avec une association gabonaise de lutte contre les crimes rituels. Et puis on sera donc en ligne avec son président, Jean-Elvis Ebong Ondo, à Libreville, au Gabon. À ne pas manquer le reportage d'Alice Milo au marché aux fétiches de Lomé, au Togo. Et bien sûr, les voisins, on attend vos témoignages, vos points de vue. Que pensez-vous de ces croyances autour du vaudou? Parfois des dérives, des réponses des autorités. Le numéro de téléphone ne change pas. 33 1 84 22 71 71. Avant toute chose, Laennec Urbon, pouvez-vous nous expliquer, pour les profanes, ce qu'est exactement le vaudou? C'est une religion, c'est une croyance, c'est une magie, c'est une secte, c'est quoi?
C'est plus qu'une croyance, c'est un système religieux, ce n'est pas une secte. C'est un système religieux de type animiste, qui consiste à reconnaître qu'il existe dans différents éléments de la nature des divinités, des esprits.
L'eau, le feu.
Dans l'eau, dans les arbres, dans les montagnes, dans les rivières, et de toute façon, un petit peu partout dans l'environnement, on reconnaît qu'il y a des esprits, des âmes. Et à ce moment-là, le travail d'un individu consiste à entrer en rapport avec ces esprits qu'ils appellent des divinités, et ces divinités forment un panthéon organisé. Ils entrent en rapport de reconnaissance à ces esprits et ils se sentent un peu mieux. Et se sentir mieux, c'est se sentir ainsi dans
en
un
harmonie.
Rapport en harmonie avec le monde de la nature, mais également avec les autres. Et à ce moment-là, on est dans un système symbolique. Donc, si vous voulez, le vaudou offre à l'individu un champ symbolique qui lui permet d'être en rapport avec l'ensemble de son groupe social et son environnement.
Alors, qu'est-ce qui est assimilé au vaudou? Qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est pas toujours facile de s'y retrouver. On va avoir besoin de vos lumières, hein, Laennec Urbon, que vous nous expliquiez aussi d'où vient le vaudou, où il reste durablement implanté tout autour de la planète. Nous allons partir tout de suite à Lomé, au Togo, au marché aux fétiches. C'est une vraie curiosité locale depuis le début des années 80, ce marché aux fétiches qui attire d'ailleurs aussi des touristes, hein, et l'entrée est payante pour ceux qui viennent que regarder. Ce marché est installé dans le quartier d'Akodesewa, à l'est de la ville, non loin du port. Il est très réputé dans toute l'Afrique de l'Ouest. On y parvient par une piste. Et très vite, il y a cette odeur âcre qui vous saisit. Au marché des fétiches, on vend des cadavres d'animaux, des dépouilles, des ossements, des peaux et surtout des crânes étalés au soleil. Et d'ailleurs, on parle souvent du marché aux têtes. Tout autour des étals, il y a aussi des petites cahutes au toit de tôle qui abritent des guérisseurs, des maîtres de cérémonie très confidentiels. C'est un reportage d'Alice Milo, accompagné de son guide, Kiki Kewi.
Nous sommes au cœur de Lomé, dans le quartier B à Kodesewa. On est au marché aux fétiches. C'est un marché tout à fait particulier, c'est pas comme le grand marché de Lomé. Les grosses tables en bois là servent donc d'étal de présentoir pour la marchandise. Là, nous avons par exemple des hiboux ou des chouettes. On les utilise également pour préparer un antidote contre les attaques maléfiques, parce que c'est bien connu que les sorciers se transforment donc en chouettes, en hiboux la nuit pour voler donc l'âme des enfants surtout.
Mais il y a les plumes encore.
Il y a les plumes encore, oui. Et nous avons aussi là des caméléons séchés qui servent à faire des potions pour s'attirer donc la bonne chance, le bonheur. Si par exemple on est commerçant, donc ça peut aider à fabriquer de parfums spéciaux ou de savons spéciaux avec lesquels on prend son bain et puis là, c'est un porte-chance et ça marche.
Et là, les petits crânes, on dirait des têtes de chat.
Oui, c'est des têtes de chat. Le chat aussi, je dirais, c'est le petit tigre. Peut-être pour les gardiens de but et dans une équipe de football, par exemple, pour pouvoir les préparer et à être aussi agiles. Et on viendra ici aussi pour son filtre d'amour. Et il y a des préparations tout à fait particulières qu'on appelle « Dis-moi oui ». Le caméléon, il est pilé et il est mis dans le parfum de mon choix. Avant d'aller voir l'être convoité, je mets ce parfum 3 fois dans la paume de ma main et j'appelle 7 fois le nom de cette personne, 7 fois mon nom. C'est la formule magique et puis j'y vais et puis suffit seulement que l'être sente quand même l'odeur de ce parfum et le jeu est fait, oui. Et ils viennent ici également pour des problèmes de conception.
Ne pas réussir à avoir un enfant, ça peut être tout à fait scientifiquement explicable.
Scientifiquement explicable peut-être. Et il peut toutefois arriver aussi que ce soit le fait d'un sort qui nous a été jeté. C'est pour cela que toujours quand la médecine moderne échoue, il faut voir du côté de la tradition. Par exemple, quelqu'un qui a continuellement des maux de tête, il va faire son scanner, on ne découvre rien. Il nous arrive même d'aller à l'hôpital et que le médecin nous dise « Cette maladie n'est pas maladie d'hôpital, c'est maladie de maison, il faut retourner à la maison. » Ça veut dire « Va consulter le devin, va consulter l'oracle. » Et après, il y aura les prescriptions qui nous enverraient donc au marché ici. Le médecin le dit. En fait, tout le monde vient ici. Tout le monde vient ici, du petit artisan jusqu'au même au ministre de la République qui veut, par exemple, être candidat aux élections législatives. Il veut quand même que son aura se développe. Et il vient pour des potions particulières. Voilà.
À peu près, vous savez combien les gens sont prêts à dépenser ici ?
Des dizaines de mille, hein ? Oui, les gens sont prêts à mettre... carrément le tiers de leur revenu mensuel, et même plus. Les gens sont prêts même à s'endetter.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
On est rentré dans une des petites cabanes qui est au fond du marché.
Oui, c'est pour rencontrer Joseph. Guérisseur, marchand donc du marché.
Ça c'est votre étal de marchandises,
c'est votre marchandise.
Oui, c'est à moi. Les gens viennent d'un peu partout, pas seulement de Lomé. Certains viennent même du Ghana et des villages les plus reculés. Ils consultent d'abord leur devin, leur guérisseur, qui leur fait des prescriptions et qui les envoie ensuite chercher au marché les ingrédients nécessaires pour réaliser la potion, les talismans, les amulettes. Le client arrive donc ici avec sa liste d'ingrédients, un petit bout de caméléon, de chauve-souris, de lézard, de hérisson, de rat d'égout, et on réunit tout ça. Et ensuite, on discute du prix. Par exemple, hier, des jeunes Togolais venus de Côte d'Ivoire sont venus ici parce qu'ils ont des problèmes avec leur patron. Ils ont peur d'être licenciés. Ils m'ont acheté pour 100 000 francs CFA d'ingrédients. Actuellement, ils sont chez moi, là. On leur prépare une potion. Et quand ils rentreront, leur problème sera résolu. Le patron ne va pas les licencier, c'est certain.
Là, c'est un monsieur qui arrive dans le marché avec un sac à la main.
Un fournisseur.
On peut aller voir ce qu'il a.
Oh, ouais.
Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous avez dans votre sac ?
Une tortue d'eau douce.
Elle est vivante ?
Elle est vivante.
Vous avez trouvé ça où ?
Les mains. Ok, dans la rivière à côté, dans le Zio.
Vous savez, vous, à quoi elle pourrait être utile, cette tortue?
S'il y a des gens qui ont des problèmes de pieds, de bras,
par exemple du rhumatisme.
Vous voulez la vendre combien, là, votre tortue? Vous espérez la vendre combien?
C'est 6 000.
6 000 francs CFA. Les fournisseurs en forêt, par exemple, ils ramassent des animaux déjà morts. Et il y en a même qui sont des chasseurs, qui vont donc à la chasse. Après avoir tué des animaux, ils savent qu'il y a des parties tout à fait intéressantes qui sont utilisées dans les cérémonies vaudou pour faire les potions. Donc, ils les amènent jusqu'ici à ce marché. C'est de la viande fraîche qui est amenée.
Morte, mais fraîche.
Mais fraîche. Ils l'ouvrent, ils mettent du sel, ils font sécher, donc pour la conservation.
Là, par exemple, les tales qu'on voit là-bas, c'est des animaux qui sont en train de sécher?
En train de sécher, oui. C'est des vautours, ils sont en train de sécher.
On peut, en toute impunité, tuer des chiens et des chats pour les amener ici?
On peut toutefois le faire, parce que là, c'est des animaux qui sont élevés, et nous-mêmes, nous les élevons. Quelqu'un qui met, par exemple, à mort son chat ou son chien, n'aura quand même pas à répondre devant les tribunaux. De la vie générale, c'est toléré.
Depuis le début de cette année, nous sommes dans une crainte perpétuelle. Il faut savoir que depuis très longtemps, il existe au Togo une loi pour protéger les espèces animales menacées. Mais jusqu'ici, elle n'était pas appliquée, jusqu'à cette année. En janvier dernier, des gens sont venus ici pour acheter des lions, des léopards et des éléphants. Les clients ont ensuite demandé aux jeunes marchands de le suivre jusqu'à leur hôtel pour le payer. Et le gamin est revenu menotté. Il a passé une semaine en garde à vue. C'était un piège, un guet-apens des autorités. Les policiers l'ont amené au marché et il a pointé du doigt les responsables qui ont fait 45 jours de prison et ont dû payer une amende de 4 millions de francs CFA. Le procureur de la République a dit au président du marché qu'il fallait arrêter de vendre certains animaux comme les lions, les léopards, les guépards, les éléphants, les rhinocéros et les hippopotames. Le ministre de l'Environnement nous a dit qu'il allait nous fournir une liste des animaux autorisés à la vente et de ceux qui sont interdits. Mais depuis qu'ils ont décidé d'appliquer la loi, nous n'avons plus de provisions car nos fournisseurs ont peur d'être arrêtés et nous n'avons plus de clients non plus car eux aussi, ils ont peur de la police. Ce commerce existe depuis la nuit des temps. Au Ghana et au Bénin, on n'arrête pas les gens pour ça.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette fameuse loi et d'interdire certains animaux sur le marché ?
Nous, on n'est pas des braconniers. On ne tue pas d'animaux, on ne tend pas de pièges aux animaux. On se contente d'acheter ce qu'on nous apporte. Si on doit mettre l'homme et les animaux face à face, et s'il faut choisir lesquels il faut protéger, notre choix est clair. Nous voulons protéger les hommes. Et si un lion doit mourir pour protéger des humains, je ne trouve pas ça exagéré. On sait bien que ce sont des espèces protégées, mais c'est aux fournisseurs que les autorités doivent s'en prendre, à ceux qui tuent les animaux en brousse. Ce sont eux qui amènent ça au marché. Si ce n'est plus possible de s'en procurer, on vendra des serpents et des caméléons qui sont autorisés à la vente. Mais c'est quand même un peu triste qu'on ne puisse plus utiliser certains animaux, car ça va à l'encontre de nos traditions. Sans nos traditions, nous risquons de perdre toutes nos racines. Et un homme sans racines, c'est un homme sans repères, qui risque de sombrer. C'est important de sauvegarder ces espèces menacées, mais c'est aussi important de sauvegarder nos traditions. Il faudrait pouvoir préserver les deux. On pourrait nous autoriser à vendre un quota par espèce, par exemple.
Quelles sont vos relations avec l'Église ?
Moi, je suis catholique, baptisé depuis 1962. Je ne m'appelle pas Joseph pour rien. Je vais à l'Église. Il n'y a pas de conflit entre la religion vaudou et les autres croyances. Ce sont ceux qui ne maîtrisent pas le sujet qui ont des préjugés sur le vaudou. Le vaudou prescrit l'amour et le respect de l'autre. Les prêtres et les pasteurs, eux aussi, viennent ici, mais la nuit, par hypocrisie. Et même l'autel sur lequel le prêtre ouvre la Bible pour faire le prêche a fait l'objet de rites vaudous. Donc, on ne peut pas vraiment les dissocier.
Reportage à Lomé au Togo, signé Alice Milo. Les voisins, les voisines, vous l'avez compris, on parle du vaudou aujourd'hui. Quelle est son influence réelle dans les villes africaines aujourd'hui et la Caraïbe? Vous avez la parole. Voici tout de suite le numéro de téléphone.
Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71.
Laennec Hurbon, vous qui êtes sociologue venu d'Haïti, comment vous réagissez par rapport à ce reportage donc enregistré à Lomé au Togo?
Bon, je vois que il y a une instrumentalisation très nette d'un certain nombre de pratiques du vaudou. D'abord, une instrumentalisation de plus en plus importante pour des pratiques dites de magie défensive comme de magie offensive. Mais cela me paraît de plus en plus important dans le système africain aujourd'hui, parce que on a affaire à des sociétés déstructurées, en déstructuration si vous voulez, et donc cela a permis une sorte de remontée de pratiques, de croyances en tout cas, que souvent, si votre situation est une situation particulièrement précaire, vous pensez que c'est quelqu'un qui vous a jeté un sort, donc à l'avance, chaque individu essaie de se prémunir d'un certain nombre de moyens, de ressources pour se protéger contre les sorts éventuellement qui peuvent être jetés contre lui. Mais en fait, c'est son interprétation de sa précarité. Et à ce moment-là, il y a un certain nombre de gens qui sont des prêtres vaudous, qui connaissent bien le système et qui produisent un certain nombre d'objets. Et parce qu'ils savent que les objets ont un statut particulier dès que il y a quelques cérémonies qui ont été faites autour de ces objets pour y introduire des forces spirituelles, des forces qui peuvent être...
Mais l'utilisation des objets, ça a toujours été dans le vaudou.
Oui, absolument, hein? C'est ce qu'on appelle le fétichisme. Oui, mais cela s'explique à partir du moment que l'ensemble des éléments de la nature sont des éléments qui sont imbibés d'esprit, qui sont imbibés de force, à partir du moment que l'essentiel dans la nature, c'est des rapports entre des forces diverses, et tout l'effort d'un individu au cours de sa vie consiste à traiter ces forces-là de telle sorte qu'elles deviennent favorables.
Est-ce qu'on trouve ce genre de pratique et de marché en Haïti?
Oui, on trouve ce genre de pratique également en Haïti et à travers toute la Caraïbe. Les prêtres vaudous, comme les mambos, ce sont les interprètes du langage, des esprits, des divinités, des forces. Et chaque fois qu'un individu a des problèmes, il va trouver effectivement...
Avec également des interdictions de commercialiser des cadavres d'animaux, soit pour des protections d'espèces, soit pour des problèmes d'hygiène ou pas?
Bon, je pense qu'en Haïti, il n'y a pas tellement de principes qui ont été dicté par le système
l'État
juridique en Haïti, par l'État.
L'État ne s'immisce pas dans le vaudou.
Ne s'immisce pas tellement. Je pense qu'il y a eu, au milieu du 19e siècle, quelques articles du code pénal interdisant un certain nombre de pratiques, mais qui sont des pratiques qui sont relèvent tantôt de l'imaginaire, tantôt du réel. Ouais. On ne sait pas exactement.
Alors là, on avait un exemple de reportage à Lomé au Togo. Vous êtes haïtien. Le berceau du vaudou, c'est où? Les Béninois nous disent c'est chez nous, les Haïtiens disent c'est chez nous.
Ah oui, non, disons c'est dans le golfe de Guinée. Parce que les Haïtiens appellent l'Afrique la Guinée. C'est la Guinée mythique qui représente toute l'Afrique. C'est la métaphore de toute l'Afrique. Donc si vous voulez, les premiers moments du vaudou, on le retrouve au niveau des 5 pays du golfe de Guinée, Nigeria, Guinée, Ghana, le Dahomey, le Togo. Alors maintenant... Ça, cela représente d'ailleurs justement ce qu'on appelle le rite Rada. Le rite Rada provient précisément de tout ce monde-là. On appelle d'ailleurs le rite Rada le Guiné franc, le vaudou franc, le vrai vaudou, le vaudou qui n'est pas mêlé à la sorcellerie, à des pratiques de magie noire.
Laennec Hurbon, vous restez avec nous. Le vaudou dans les villes africaines et dans la Caraïbe, chez vous, a-t-il encore une place au milieu des grandes religions et puis aussi d'un monde de plus en plus scientifique? Vous nous direz aussi la place du vaudou en Haïti après le grand séisme du 12 janvier 2010. Vous restez avec nous et bien sûr les voisins, les voisines, on vous donne la parole juste après le flash au 33 1 84 22 71 71. Retour dans 3 minutes les voisins. Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
« 7 milliards de voisins, on est ensemble ».
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins. Suite de notre émission sur le vaudou et sa place aujourd'hui dans les villes africaines et la Caraïbe. La Laëna Curbon, vous êtes spécialiste du vaudou. Vous venez d'Haïti, vous vivez à Port-au-Prince. Vous êtes aussi chercheur au CNRS et à l'Université d'État d'Haïti. Vous nous disiez d'ailleurs en première partie d'émission que le vaudou était un système religion, donc ni une secte, ni une croyance, mais bien un système religieux qui considérait finalement, qui consiste à être en harmonie avec les éléments de la nature. Hein. Donc il y a vraiment un travail avec la nature. On peut se poser la question justement à l'heure de l'urbanisation aujourd'hui, comment le vaudou parvient à survivre plus que jamais?
Bon, le vaudou parvient à survivre d'abord à différentes persécutions, à du dénigrement. Pendant longtemps, les Occidentaux, que ce soit en Afrique même, à cause même du système colonial qui était basé sur l'évangélisation aussi, donc il fallait faire du vaudou quelque chose d'absolument primitif, qui est sauvage et qui correspondait plutôt à de la sorcellerie.
Mais vous nous parliez des arbres, des montagnes, qui sont des éléments essentiels au vaudou. Aujourd'hui, dans les villes africaines, où on ne voit que du goudron et du béton et de la tôle ondulée, comment faire ?
Ah, je pense qu'il continue à avoir, au-delà de la tôle ondulée et du béton, qu'il continue à avoir quand même que des divinités existent, du moins dans leur croyance, qu'ils continuent à y croire, parce que il leur faut donner une place au système religieux, puisqu'il ne disparaît pas du jour au lendemain. Je pense que...
Non seulement ne disparaît pas, mais cohabite avec les grandes religions. Alors, si vous le voulez bien, on va donner la parole à des auditeurs qui nous appellent. Ils sont nombreux à nous appeler du Bénin, vous vous en doutez. Haïti, c'est peut-être un peu tôt en première diffusion pour que nos amis haïtiens nous appellent. Néanmoins, je sais qu'ils sont nombreux à nous écouter, entre autres à Port-au-Prince. 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons une voisine de Cotonou, Lily. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Lily, vous avez 34 ans et vous faites partie d'une association qui veut rapprocher les jeunes générations de l'identité vaudou. Expliquez-nous.
Alors nous avons monté une association à Cotonou. Notre association s'appelle Néwi Honto, au seuil du peuple noir. Et nous avons créé un site internet où nous mettons en ligne tous les chants, les danses, les rituels, toute l'esthétique qui entoure la pratique de la civilisation vaudou. Parce qu'au Bénin, le vaudou n'est pas considéré comme une religion, c'est notre identité. Et nous avons besoin d'utiliser la technologie moderne, la technologie audiovisuelle, pour rapprocher la jeune génération de ce patrimoine qui est effectivement en train de se perdre à cause de l'urbanisation massive.
Vous avez le sentiment que, justement, aujourd'hui, les jeunes sont plus éloignés du vaudou aujourd'hui?
Oui, parce que tous les jeunes dans toutes les villes africaines sont hyper connectés. Et nous, justement, nous voulons utiliser ce nouveau moyen qui occupe plus de 80% de nos journées, le téléphone portable, les ordinateurs. Nous voulons utiliser ce moyen de communication moderne pour pouvoir les rapprocher de cette civilisation qui est aussi orale et visuelle. Donc nous avons les paramètres de cette civilisation orale et visuelle qui correspondent parfaitement aux paramètres de la technologie moderne qui est profondément basée sur l'audiovisuel.
Oui, c'est ça.
Donc nous enregistrons des chants, des rituels, des danses que nous mettons en ligne sur Internet. Nous produisons aussi des films documentaires sur différents rituels qui ponctuent la vie de tout individu, donc les rituels de naissance, les rituels de mort, les rituels de réjouissance. Et nous mettons tout ça en ligne sur notre site internet d'une part, mais aussi nous faisons des documentaires de 26 minutes qui sont diffusés sur la télévision nationale du Bénin.
Ouais, et ça a du succès sur votre site internet?
Oui, nous avons, les gens sont très intéressés par ce moyen de pouvoir joindre un outil moderne.
Laëna Curbon, alors qu'est-ce que vous en pensez, Laëna Curbon, vous, en tant que sociologue haïtien spécialiste du vaudou? Est-ce qu'il y a des pratiques de ce type en Haïti avec les nouvelles technologies?
Tout à fait, il y a une revitalisation du vaudou qui se produit, que ce soit aux États-Unis, au Canada et en Haïti même. Il y a de nouvelles organisations des prêtres pour la défense du vaudou. Il faut savoir que le vaudou sort récemment de la d'une clandestinité relative. C'est la constitution de 1987. Autrement dit, il n'y a pas plus de 40 ans, moins de 30 ans en tout cas environ, que le vaudou est dépénalisé.
Donc, en Haïti.
En Haïti même. Donc cela veut dire qu'il y a eu un certain nombre d'efforts pour rendre le vaudou compatible avec le mouvement d'urbanisation actuel.
On a regardé, nous, il y a des applications pour smartphone maintenant, des applications vaudou.
Ah oui, je pense que le vaudou peut être appliqué à différents systèmes électroniques, qu'il y a tout un travail qui est en train d'être entrepris aujourd'hui. Au niveau des jeux électroniques.
Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez travaillé aux racines du vaudou?
Moi, je pense que c'est parfaitement possible. Il n'y a aucune raison de croire absolument incompatible le vaudou avec la situation de la modernisation actuelle. Il faut poser le problème du vaudou comme on le pose pour l'ensemble des autres systèmes religieux. Bien sûr, il va évoluer comme d'autres systèmes religieux ont pu évoluer, qu'il s'agisse du catholicisme ou de l'islam ou du judaïsme, tous ces systèmes religieux évoluent.
Sachant que là, le vaudou cohabite avec les grandes religions. Les gens qui pratiquent le vaudou sont catholiques ou
ce qui montre qu'il y a une capacité d'adaptation du vaudou à ces systèmes religieux.
Un message intéressant sur le fil Facebook, Alassane nous dit, moi dans ma région, il poste du Sénégal, hein, dans ma région très islamisée, on ignore l'existence du vaudou, moi je pense que ces pratiques bloquent en partie le décollage de l'Afrique.
Ah, cette croyance que le vaudou bloque le décollage, il faudrait l'appliquer à ce moment-là à tous les systèmes religieux, on ne s'en sort pas. Parce qu'à ce moment-là, il faudrait penser que on aboutira un jour au développement quand on aura supprimé l'ensemble
des
religions.
Pourquoi le vaudou
cette perspective me paraît dangereuse.
Mais pourquoi le vaudou dans les pays à majorité musulmane n'a pas réellement de...
Ah, il y a également des éléments de croyance animiste qui cohabitent avec l'islam dans plusieurs pays d'Afrique. Et dans le cas d'Haïti, le vaudou a joué, et pas seulement dans le cas d'Haïti, mais pour l'ensemble des pays de la Caraïbe et de l'Amérique latine, le vaudou a représenté ce qui a donner une force pour diverses insurrections, en particulier l'insurrection générale des esclaves en Haïti, s'est produite grâce à une cérémonie vaudou, grâce à des pratiques vaudou qui ont été utilisées pour galvaniser les esclaves.
Insurrection et résurrection, je vous poserai la question, parce que en Haïti, on dit souvent, il y a un avant et un après 12 janvier 2010, le pire séisme de l'histoire d'Haïti, avec plus de 200 000 morts, l'un des pires en tout cas, le monde entier, à ce moment-là, vous en souvenez, s'est ému sur Haïti, sur la malédiction d'Haïti. Et le vaudou dans ce drame?
Oui, la théorie de la malédiction provenait en particulier soit des mouvements charismatiques, peut-être pas tellement des mouvements charismatiques, mais peut-être ce qui était lié au protestantisme de type pentecôtiste. Il y a eu toute une série de prédications qui portaient à croire que effectivement
Est-ce que le vaudou a eu un rôle pour que les gens restent debout à ce moment-là?
Bon, le vaudou a aidé ceux qui sont vaudouisants, mais il faut croire que
quel pourcentage de la population en Haïti quand on dit ceux qui sont vaudouisants?
Le problème c'est que l'imaginaire vaudou traverse l'ensemble des systèmes religieux en Haïti.
Et puis il n'y a pas de sondage d'enquête déclarative là-dessus.
Il
n'y
a pas encore de sondage vraiment qui puisse permettre de le dire, mais de toute façon, je pense que le vaudou reste transversal à l'ensemble des pratiques religieuses, des systèmes religieux qui existent en Haïti.
Mais c'est le cas également pour nos auditeurs qui nous appellent du continent subsaharien, 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons Pacôme. Bonjour Pacôme.
Bonjour Emmanuel.
Pacôme, vous êtes à Cotonou, également au Bénin. Oui. Vous vivez à Cotonou, mais vous venez de Ouida, c'est bien cela?
Oui.
Et vous souhaitiez faire un peu une comparaison entre l'existence du vaudou dans une localité plus petite, éloignée d'une soixantaine de kilomètres de Cotonou, et la réalité du vaudou à Cotonou.
Oui, je précise que quand on parle du vaudou, on parle aussi au Bénin, et l'une des villes de ce pays, c'est Ouida, où chaque année, par exemple, le 10 janvier de chaque année, on célèbre le vaudou.
Oui, qui est la journée nationale du vaudou.
Et j'avoue que moi, je rate très rarement cette occasion pour aller nous communier avec les ancêtres. Et réaliser ce pont entre le monde visible et le monde invisible.
Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie moderne à Cotonou? Que vous apporte aujourd'hui le vaudou, Pacôme?
Chaque année, je vous avoue que je retourne dans ma famille pour aller me ressourcer avec les pratiques vaudouisantes chaque année dans ma famille. Et c'est souvent pendant la période du Nouvel An où la fête passe. Voilà.
C'est une façon de vous rapprocher de vos ancêtres, de votre famille, qui sont plus éloignés de votre quotidien lorsque vous travaillez à Cotonou?
Oui, oui. Vous savez, pour rentrer dans une nouvelle année, prévoir l'avenir, etc., l'Africain, enfin nous, dans notre culture, nous retournons d'abord aux ancêtres pour concevoir le monde de futur, mais en même temps, se donner les garanties, les protections nécessaires qu'il faut, pour vivre tout simplement. Et ça, la pratique du vaudou est un élément que nous utilisons pour vraiment être dans le monde tout simplement.
Ouais, être dans le monde et se protéger. 33 1 84 22 71 71. Merci beaucoup pour votre appel, Pacôme. Nous accueillons Dieudonné qui est à Cotonou également. Dieudonné, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes un pratiquant au quotidien du vaudou vous-même?
Oui, bien sûr. Mon pays, le Bénin, est le berceau du vaudou. Le 10 janvier est décrété fête nationale du vaudou. C'est la religion la plus pratiquée dans toutes les contrées, dans toutes les familles. Et chaque famille a sa ou ses divinités.
Ouais. Vous dites là, c'est la religion la plus pratiquée, mais vous êtes chrétien, hein, vous allez à l'église le dimanche.
Oui, bien sûr.
D'accord. Donc tout ça cohabite.
Parce que le vaudou et la religion chrétienne cohabitent. Les deux convergent vers Dieu.
Je voudrais vous lire le message d'une internaute qui nous dit « Moi, quand j'ai besoin de quelque chose ou d'une protection, je demande simplement à Dieu, car avec tous les charlatans, on ne sait plus. »
Oui, il y en a beaucoup, il y en a de faux, mais si tu vas consulter un vrai charlatan, un vrai marabout ou bien un vrai consultant, non, un vrai consultant du phare, tu auras le bien-être, la prospérité, le bonheur. Et puis, tu peux prévoir ton avenir aussi.
Lannec Urbon, comment faut-il interpréter à la fois ce besoin de confusion et puis parfois c'est cette confusion, ce syncrétisme et peut poser problème?
À mon avis, il n'y a pas de confusion. Le vaudou tel que nous le connaissons, que ce soit en Afrique ou en Haïti, manifeste une grande capacité d'intégration de différents éléments venus d'abord d'Afrique. Parce que le vaudou qui se pratique au Guinée, au Nigeria ou bien au Bénin, c'est un vaudou qui est en rapport, qui reprend plusieurs éléments des autres pays environnants. Et dans le cas d'Haïti, le vaudou reprend des éléments venant du Congo aussi, y compris, donc, du catholicisme. Évidemment, il y a des éléments du catholicisme qui peuvent être considérés comme superficiels à l'intérieur du système vaudou, mais l'individu n'a pas d'objection à vivre au niveau des deux systèmes. Il y a pas d'incompatibilité entre les deux. Je ne vois pas où on pourrait mettre cette incompatibilité.
Et qu'est-ce que, aujourd'hui, ça apporte à la vie moderne, urbaine? Ben, pour les individus.
Si, quand on imagine que la vie urbaine aujourd'hui est une vie dans laquelle l'individu se trouve privé de tout rapport vraiment social avec de tout rapport communautaire, que l'individu est comme perdu en quelque sorte dans la masse, eh bien il retrouve un petit peu le rapport à l'origine, puisque le vaudou est un culte d'abord familial, on le voit, par exemple, les Haïtiens qui vivent aux États-Unis ou au Canada éprouvent ce besoin de renouer avec le monde des ancêtres à travers.
D'autant plus qu'ils sont éloignés, d'autant plus qu'ils ressentent ce sentiment.
Et c'est toujours un héritage familial.
Je vous lis le message d'Oru qui est à Joinville-le-Pont en région parisienne et nous dit Oru, en Afrique, le vaudou est une réalité, surtout en Afrique de l'Ouest. Bénin, Togo, Nigeria. Le problème, c'est que beaucoup ne croient plus en la puissance des divinités. Or, elles constituent une source durable de stabilité.
Oui, et d'ailleurs, on le voit à travers les arts. Le vaudou inspire justement les arts et permet à l'individu de se retrouver. C'est une source de stabilité et de pacification pour l'individu qui ainsi trouve de quoi organiser sa vie grâce à ses forces qui viennent lui donner un appui pour son identité.
Alors, il y a aussi des internautes qui postent des messages comme Ruffin qui disent il est à Nantes, il est chez nous en Côte d'Ivoire, ces choses sont considérées comme des illusions, des gens qui sont effectivement qui ne voient pas l'intérêt du vaudou. Je voudrais qu'on aille un peu plus loin, car nous sommes en ligne avec le Gabon. Bonjour Jean-Elvis et Bangondo.
Bonjour madame.
Vous êtes le président de l'association de lutte contre les crimes rituels. Il faut rappeler à nos auditeurs qui ne le sauraient pas, mais RFI se fait l'écho de cette triste actualité très régulièrement. Des enfants, des femmes, des hommes sont régulièrement assassinés, mutilés et font l'objet d'un commerce d'organes et font la une de la presse avec force de détail et de violence. Et il y a aussi des disparitions non élucidées. Est-ce que pour vous, Jean-Elvis et Bonmondo, il y a une relation avec le vaudou et ses crimes rituels pratiqués, pas seulement au Gabon d'ailleurs, hein, au Cameroun, au Nigeria, en Tanzanie?
Je crois que c'est tellement le parallèle. Quand on parle aussi de vaudou, d'ingobu, les religions traditionnelles, les sociétés secrètes et telles initiatives constituent un monde parallèle dans les liens avec les politiques. Mais c'est un monde un peu complexe, étroit et souvent intéressé par l'élite dans notre pays.
Un monde parallèle.
Alors, les adeptes se croient bien dans ce temple démoniaque. Bon, j'appelle démoniaque parce que je ne fais pas partie. Je vois que c'est tellement horrible, il y a trop de violence dans ce milieu. Et ce sont les mêmes personnes qui se bousculent dans les cathédrales, dans les... C'est-à-dire, ils sont à la fois la nuit dans ces endroits, et le jour, ils se retrouvent à l'église.
Alors vous, en tant que président d'association de lutte contre les crimes rituels, je précise d'ailleurs que votre propre fils a été assassiné lors d'un crime rituel. Il avait 12 ans, c'était en 2005, hein, Jean-Elvis et Bangondo. Il y a de nombreuses procédures judiciaires. Vous avez des dossiers dans votre association de familles qui portent plainte contre l'assassinat de leur enfant. Où en sont ces procédures aujourd'hui ?
D'une manière générale, lorsqu'on évoque le dossier des crimes rituels dans notre pays... les autorités font semblant de traiter ce dossier, mais d'une manière générale, il y a l'impunité. L'impunité persiste et existe encore. Et comme on le dit chez nous, on ne peut pas séparer le sel et la mer.
Néanmoins, il y a eu des déclarations politiques fortes à la tête de l'État pour dire qu'il fallait absolument stopper ces crimes rituels et faire un ménage. Où en est la révision du code pénal pour créer une nouvelle catégorie de crimes à but fétichiste et donc durcir les peines de ceux qui commettent ces crimes, notamment à l'égard d'enfants, Jean-Elvis et Bangondo?
Nous aimons notre pays, nous aimons nos proches. Nous ne faisons pas des critiques comme certains le croient. Nous faisons aussi des propositions. Nous sommes victimes et on se plaint de temps en temps. Nous avons posé des actes positifs pour ramener ces gens à la raison, c'est-à-dire...
Vous n'avez pas répondu à ma question, s'il vous plaît. Jean-Elvis, il nous reste très peu de temps. Où en est la révision du code pénal?
Mais je vais revenir là-dessus pour vous dire que nous avons remis le mémorandum au chef de l'État le 11 mai. Et dans ce mémorandum, il y a eu des propositions, des révisions des articles des codes pénales gabonais qui datent depuis 1963. Donc rien ne bouge jusqu'à présent.
Merci beaucoup Jean-Elvis et Bangondo. Vous êtes le président de l'association de lutte contre les crimes rituels. Alors là, évidemment, on arrive à des dérives de violence assez incroyables qui émeuvent d'ailleurs l'opinion. La Hennec Urbon, pour vous, c'est quoi le lien avec le vaudou?
Non, je crois qu'il n'y a pas de lien entre les crimes rituels et le vaudou. Seul le lien qui existe, c'est un lien périphérique. Il parlait de monde parallèle. Il faudrait parler de ce qui relève du périphérique autour du vaudou.
Société secrète, etc.
Mais même les sociétés secrètes sont liées également à des temples vaudou. Et il y a une bonne partie, il y a beaucoup plus d'imaginaire que de réel en ce qui concerne pour ce que je sais en ce qui concerne l'histoire du vaudou en Haïti, en ce qui concerne l'histoire du vaudou dans les pays africains, il faut savoir que de toute façon, il y a beaucoup de mouvements protestants qui font leur publicité et leur prédication autour d'un imaginaire de crime rituel qui se serait opéré autour
à travers le vaudou. Mais qu'est-ce qui se passe pour qu'on passe du sacrifice d'un poulet à des sacrifices humains?
C'est un fantasme qu'il y a surtout chez ceux qui ne connaissent pas les pratiques du vaudou, qui n'ont pas vu. On le voit à travers le 19e siècle en Haïti.
Dans les pratiques du vaudou, il n'y a pas de grande violence de ce type.
Il n'y a pas de violence de ce type-là. Il y a d'ailleurs tout un imaginaire de sorcellerie qui provient directement de l'Europe et non pas directement du vaudou.
Ça n'est pas un gage de non-violence, ceci dit.
Non, ça ne veut pas dire que c'est non-violent.
La sorcellerie au Moyen-Âge a tout de même été cruelle.
Absolument, il y a de la violence dans tous les systèmes religieux, autour de tous les systèmes religieux, dans la mesure où il y a de l'instrumentalisation. Mais de toute façon, pour revenir à la question que vous posez en ce qui concerne la révision du code pénal, il y a un problème autour de la possibilité que le code pénal puisse intervenir sur des objets qui relèvent de l'imaginaire et qui ne sera pas, qui peuvent pas être...
En l'occurrence, pour le cas du Gabon, la difficulté est aussi d'identifier les commanditaires, qui sont d'ailleurs parfois, il y a eu des politiques visées.
Autrement dit, il y a bien un code pénal qui existe pour tout ce qui concerne la mutilation, les crimes, que cela se passe à l'intérieur du système ou en dehors, mais de là à croire qu'il y a un rapport direct entre le système religieux et les possibilités de crime rituel, ça je le crois pas. Il y a des cas où il y a des passages à l'acte, mais ce n'est pas la définition elle-même de la pratique du vaudou.
Il nous reste très peu de temps, vous nous appelez si vous le souhaitez, les voisins et les voisines, on parle du vaudou au 33 1 84 22 71 71 chez 7 milliards de voisins. When you can see the same reflections of city lights, but you're far away at sea, while the satellites, and I run away, what am I gonna do with you go Damon Albarn chez 7 milliards de voisins sur RFI. On parle du vaudou aujourd'hui. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Un voisin nous appelle d'Haïti. Bonjour.
Oui, je veux dire bonjour. Je suis à Port-au-Prince.
Nous vous écoutons.
D'accord. En fait, moi, je veux tout d'abord saluer le professeur Lainec Lebon. Donc, c'est l'un des nôtres. Et je veux aussi profiter pour lui faire une question en direct. Je veux lui demander, est-ce qu'il ne pense pas qu'avec la mondialisation aujourd'hui,
avec la mondialisation aujourd'hui, nous avons un problème de ligne téléphonique. Est-ce que vous nous entendez bien, Wilson? Vous pouvez poursuivre votre question, même si j'imagine un petit peu la suite. Allô? On a un problème de ligne. Alors, avec la mondialisation aujourd'hui, l'avenir du vaudou.
La mondialisation fait remonter davantage toutes les pratiques de type identitaire. Au contraire, on croyait que la mondialisation allait niveler. Justement, ce n'est pas ce qui se produit. Il y a davantage de systèmes religieux divers qui s'expriment et qui deviennent des lieux d'expression de l'identité, parce que précisément on sent que qu'il y a une sorte de péril de dissolution de l'histoire. Et
pour conclure, je voudrais lire le message intéressant d'Adéoti qui est à Abomey Calavi, qui nous dit dans un monde changeant, sous-entendu la mondialisation. Ce qui m'intéresse, c'est l'utilisation ou l'adaptation qui est faite de cette religion. À Porto Novo, la municipalité a mis à contribution le Zangbeto pour faire prendre conscience aux populations de la nécessité d'avoir des comportements citoyens en matière d'assainissement des eaux pluviales. Donc on a utilisé le vaudou et aussi loin des couvents et des temples, le vaudou a su s'adapter au contexte moderne et participer à sa façon au développement de la communauté.
Tout à fait. Et moi, je pense qu'il y a un potentiel cognitif à l'intérieur de tous les systèmes religieux, en particulier du vaudou, qui peut être réemployé, utilisé.
À défaut de jeter des mauvais sorts à son voisin, vivre davantage en harmonie avec lui.
Mais ça suppose que l'État lui-même comprend.
Et sache utiliser ce type de système religieux.
Qu'il y a la place à reconnaître.
Merci à vous, Laennec Urbon, spécialiste du vaudou, chercheur au CNRS à l'Université d'État d'Haïti. On était ravis de vous accueillir dans le studio de RFI. Merci à vous, les voisins et les voisines, pour vos témoignages ô combien éclairants sur tous nos sujets. Et merci à toute l'équipe qui a préparé cette émission. Demain, 7 milliards de voisins, rediffusion de notre émission sur l'enseignement catholique. L'enseignement catholique en question. Oui, dans de nombreux pays, il représente l'excellence et l'élitisme scolaire. Une mère d'élèves en France publie un brûlot. J'ai mis mon fils chez les cathos, pas tendre comme témoignage. Et chez vous, les voisins, quelles sont les valeurs de l'enseignement catholique? Êtes-vous satisfait ou déçu? Vos témoignages dans 7 milliards de voisins, c'est à réécouter à 10h10, temps universel, sur RFI. À demain.